vous restez avec nous, Jay McInerney, car mon camarade Xavier Delaporte, bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Va vous entretenir du lien entre les ordinateurs et la littérature. Vous écrivez à l'ordinateur, Jay McInerney?
Ouais.
À l'ordinateur. Traitement de texte.
Bon. Eh bien voilà, vous avez un client.
C'était une bonne question, mais c'est pas du tout ce dont je vais parler. Depuis les années... Non.
C'était mais le titre.
Non, oui, c'est vrai, c'est le titre, mais c'est autre chose. Depuis les années 70 et l'apparition de l'informatique, des chercheurs travaillent à marier informatique et études littéraires. Alors, je ne vais pas vous raconter cette histoire, celle de ce qu'on appelle les études littéraires assistées par ordinateur, hein, et là-haut. Mais disons en très gros qu'elle passe par un groupe de chercheurs qui a pris le nom de Hubert de Falaise en France à la fin des années 80, qu'elle s'est prolongée par les travaux de Franco Moretti. Vous savez que le frère de Nanni Moretti est un grand chercheur en littérature et
évidemment,
informatique.
Évidemment, on le savait.
Ouais, Stanford. Et donc, des études qui prennent leur envol aujourd'hui dans ce qu'on appelle les humanités numériques et qui s'étendent largement au-delà de la littérature. Mais évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'informatique peut nous apprendre sur la littérature que nous ne nous avons pas déjà appris, les différentes manières d'aborder un texte, la stylistique, la linguistique ou même la génétique. Alors certes, c'est grâce à l'informatique, en étudiant ce qu'on appelle les traces linguistiques, que des chercheurs ont pu établir l'an dernier seulement, que Christopher Marlowe avait collaboré avec Shakespeare à l'écriture de Henri VI. Alors, bon, c'est super, mais bon. Vient d'être publié aux États-Unis sous la plume de Ben Blatt, ouais, c'est intéressant. Un livre du nom de « La couleur préférée de Nabokov était le mauve ». Ben Blatt a utilisé une énorme masse de données de textes, des classiques, des best-sellers, mais aussi, c'est très intéressant, des textes amateurs publiés sur Internet, qu'on appelle les fanfictions, pour faire des recherches, et il en a donné une synthèse de son travail dans Publishers Weekly, c'était en début mars. Alors je m'arrête sur deux exemples. Le point d'exclamation et les clichés littéraires, les phrases toutes faites. Alors d'abord, Ben Blatt a fait une chose assez drôle, il est allé vérifier si les auteurs appliquaient vraiment leur art littéraire, c'est-à-dire s'ils respectaient en pratique leur conception de la littérature. Par exemple, Elmore Leonard, qui est un grand écrivain de polar, de roman noir, a publié en 2007 un livre qui s'appelle « Mes 10 règles d'écriture ». Et une des règles dit « Un auteur ne doit pas utiliser le point d'exclamation plus d'une fois tous les 100 000 mots ». Alors ça évidemment c'est du beurre pour la statistique. Eh bien figurez-vous qu'une étude de ces textes montre que lui en utilise un point d'exclamation tous les 1600 mots. Donc on pourrait en conclure que Léonard se ment à lui-même. Sauf que quand on analyse plus finement les résultats, on s'aperçoit qu'au long de sa carrière, Léonard a de moins en moins utilisé le point d'exclamation et même presque plus à partir du moment où il a édicté cette règle. C'est intéressant. Ça signifie que cette règle est le produit, le fruit d'un parcours littéraire. Reste la question de savoir pourquoi l'abondance de points d'exclamation pose problème. Là, Blatt apporte un élément. En passant au crible des milliers de fanfictions, dont des textes amateurs, il montre que les textes amateurs comptent en moyenne 4 fois plus de points d'exclamation que les textes publiés. Alors là, je vois deux hypothèses. Soit le point d'exclamation est une béquille, un moyen d'exprimer graphiquement ce qu'on n'arrive pas à exprimer par la langue, donc une marque de faiblesse. Soit ce sont les éditeurs eux-mêmes qui ont un problème avec les points d'exclamation, et donc il faudrait étudier les raisons de cette sorte de haine atavique des éditeurs pour le point d'exclamation. Ben Blatt s'est intéressé aussi aux clichés littéraires et il a passé au crible 50 auteurs, évidemment de langue anglaise, hein, c'est son corpus. Jay McInerney, vous n'êtes pas dans cette liste. Où l'on s'aperçoit que parmi les plus gros usagers de formules toutes faites, on trouve Tom Wolfe, Salman Rushdie, Stephen King ou même James Joyce. Et parmi les usagers les plus parcimonieux, trois femmes: Virginia Woolf, Edith Wharton et Jane Austen. Alors je ne sais pas quelle conclusion on peut en tirer sur le rapport entre le genre des auteurs et l'usage des clichés littéraires. Il y aurait moins d'évidence dans la langue pour les écrivains femmes, je ne sais pas. Ni même entre usage de clichés et qualité littéraire, parce que pour ma part, j'aime autant Tom Wolfe que Jane Austen, qui sont pourtant aux deux extrêmes de cette liste, qu'en conclure. En vous racontant tout ça, j'ai bien conscience que même si les résultats sont assez marrants, les outils et les hypothèses de Ben Blatt sont assez rudimentaires, hein, c'est en gros de la statistique appliquée à des énormes masses de données, alors que bon, les outils informatiques d'aujourd'hui peuvent faire autre chose, j'imagine. J'ai bien conscience surtout des limites que cela nous apprend sur la littérature et des éclairages que ça pourrait nous apporter sur les mystère de l'écriture et des effets qu'elle produit sur nous. Mais peut-être est-ce finalement assez merveilleux qu'aucun ordinateur ni aucun programme puisse m'aider à comprendre pourquoi depuis des années je suis hanté par un vers de Nerval que je trouve d'une grande beauté, un vers tout simple qui dit pas grand-chose, un petit vers pas important, mais qui m'émeut plus que tout et dont j'espère qu'il fera couler des larmes à votre café ce matin. Et la treille ou le pampre à la rose salie.